De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue, on en a fini avec la rétrospective de la décennie, avec la rétrospective de l'année 2019, puisque nous sommes bel et bien en 2020, avec l'actualité de 2020. Bonjour Manu, bonjour Marine.
Bonjour à tous. Bonjour.
Donc un sommaire avec trois films asiatiques ou deux films émis, enfin peu importe, des films quand même qui se sont tournés en Asie.
Oui, moi je vais vous parler de The Farewell qui a eu deux Golden Globes il y a quelques jours. Et je vais également vous parler d'un film marocain, Le Miracle du Saint Inconnu, et également aussi eh bien, d'un livre qui s'appelle Ma folle histoire du cinéma.
Et puis toi Manu?
Ninaou de Midi Z, un film taïwanais, et puis le dernier film romantique de Takashi Miike, First Love.
Il y a de l'ironie évidemment là-dedans. Et puis sinon, eh bien moi je vous parlerai des Siffleurs, le film du Roumain Corneliu Porumboiu. C'est un des derniers films de Cannes qui est... Non, je l'ai mal dit.
Non, c'est que ça, c'était complexe.
Oui, mais j'ai toujours du mal à le prononcer. Donc c'est un des derniers films en fait qui était en compétition à Cannes, qui se retrouve donc distribué dans les salles. Et ce sera l'occasion eh bien, d'écouter le réalisateur pour ce très très bon film. Et puis on va débuter cette émission avec un vrai bonhomme, film de Benjamin Parent, un teen movie qui questionne la masculinité.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
T'as perdu quelqu'un? C'est juste qu'il est là quand j'ai besoin de lui. Il me rassure, c'est tout.
Craque pas, putain, Tom, craque pas.
Si t'as pas honte, ils peuvent rien contre toi.
Je suis dingue, hein.
Complètement schizo.
Voilà une bonne surprise hein, en ce début d'année. Un vrai bonhomme du d'abord scénariste Benjamin Parent qui explore l'injonction de la masculinité dans nos sociétés, ou disons-le plus simplement, hein, qu'est-ce qu'être un homme quand on va quitter l'adolescence. Pour traiter de ce sujet, il s'empare également de la question du deuil. Nous sommes en banlieue verte parisienne, on y suit Tom, un ado sensible et plutôt réservé, davantage versé dans la littérature que dans le basket, sport choisi par son frère Léo, à qui le père promet une belle carrière. L'un est cool, charismatique, apprécié de tous quand l'autre est discret, voire inexistant pour son propre père. Alors le plus jeune est attiré par une posture hein, qu'il ne peut prendre. Alors qu'est-ce qu'il aimerait finalement comme son frère, comme ça, eh bien son père pourrait peut-être le regarder. Mais le destin va basculer, alors il est difficile de parler d'un vrai bonhomme sans émousser ce qu'on apprend au bout d'à peine un quart d'heure et qui va donner le véritable sel au film. Je me contenterai de dire que l'influence du frère aîné va se faire de plus en plus forte auprès du jeune Tom. L'omniprésence du frère aîné eh bien, va perturber Tom. Et Tom, eh bien, il inquiète ses parents car il est sujet à des crises sévères pendant lesquelles ses nerfs lâchent, ce qui n'est pas très beau à voir.
Cool et détendu. Léo, il est avec toi là?
Ah, bah t'as essayé de t'éteindre ou quoi?
Voilà!
Tom, personne ne remplacera jamais Léo. Il sera toujours mon fils, ton grand frère. Toujours. Tom, t'es courageux. C'est pour ça que tu t'en es sorti, tu m'entends? T'es à la hauteur.
La bande-annonce ne rend pas très justice à ce finalement, parce qu'il y a très peu de musique à l'intérieur de ce film. Alors, sous un certain aspect, Un vrai bonhomme est d'abord un teen movie qui tord quelque peu les codes du genre, en préférant s'attacher à un être sensible et perdu, qui ne tombe pas forcément amoureux de la plus belle fille du lycée, hein, ce qui ne la rend pas autant accessible. Et sous l'emprise de son frère aîné, eh bien, Tom va devoir s'en défaire et dans le même temps désobéir aux injonctions de masculinité qu'on lui transmet de manière presque inconsciente. Hein. Le manque d'intérêt que peut avoir son père, joué par un Laurent Lucas très sobre, suffit à perdre l'adolescent qui ne sait pas vraiment où donner de la tête. Doit-il s'intéresser aux mecs cool et virils qui sont prêts à lui en faire baver ou aux premiers qui lui adressent la parole avec bienveillance? Dans le film de Benjamin Parent, tous les hommes semblent d'ailleurs perdus. Hein. Le père incapable d'aimer son fils tel qu'il est, le fiston incapable de trouver sa voie, car écrasé par ce qu'on attend de lui. Il n'y a que la mère hein, qui se prénomme Ariane, et pas pour rien, qui semble comprendre ce qui cloche et tente d'aller de l'avant. Le film est rythmé par l'omniprésence du grand frère dans de nombreuses situations, parfois anodines, que peut traverser l'adolescent. La mise en scène peut se faire attentive ou nerveuse tant il est question d'affrontements, autant physiques que psychologiques. Le film est tendre avec son sujet, également avec ses personnages qui ont tous une épaisseur. On sent que le réalisateur est aussi scénariste. Hein. Il émane de ce teen movie une atmosphère délicate que mérite bien son sujet. Et dans ce film aussi, eh bien, vous pourrez voir une des révélations, me semble-t-il, du cinéma en 2020. Le jeune Benjamin Voisin qui conjugue prestance et aisance tout en finesse. Cet acteur éclaire vraiment, vraiment le film. Hein. On le verra prochainement dans La dernière vie de Simon en février, puis dans le prochain François Ozon, mais aussi dans le prochain film de Xavier Giannoli qui s'est emparé de l'adaptation des Illusions perdues de Balzac. Il sera aux côtés quand même de Depardieu et Vincent Lacoste. Un vrai bonhomme de Benjamin Parent, donc c'est en salle depuis le 8 janvier. Un film qui était déjà en salle, Le miracle du Saint Inconnu, une fable burlesque marocaine dont tu vas nous parler maintenant, Marine.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Tout commence en plein désert marocain. Un voleur, Amine, tente d'échapper à la police. Il tient un sac qui contient tout l'argent qu'il vient de dérober et en désespoir de cause, il décide de l'enterrer et de se rendre. Lorsqu'il sort de prison 10 ans plus tard, il découvre que la tombe dans laquelle est enterré son argent est considérée comme la sépulture d'un saint inconnu et que les pèlerins viennent donc de tout le pays pour s'y recueillir. Amine va devoir s'installer dans le village voisin pour tenter de récupérer son argent. C'est le premier long métrage de Ala Eldin Aljem, jeune réalisateur marocain très prometteur hein, qui a présenté son film cette année à Cannes au cours de la semaine de la critique. Le miracle du Saint Inconnu, c'est une sorte de conte moderne dans lequel l'absurde côtoie le mystique en permanence et dont les personnages eh bien, sont des archétypes définis par leur métier au sein du village. L'histoire, quoique située de nos jours, est volontairement intemporelle. Alors on pourrait y voir hein, bien sûr une critique de la religion et de l'humanité qui cherche coûte que coûte à croire en quelque chose. Mais le film, quoique très satirique, n'est pas une critique hein, de la culture marocaine. Au contraire, c'est un hommage. Un hommage appuyé par des plans, souvent très larges, absolument magnifiques. Il y a quelque chose de quasi féerique dans la façon dont la ruralité marocaine est montrée ici. Et malgré quelques longueurs, le film est largement sauvé par sa photographie. Voilà. Donc c'est un avis mitigé. Mais vraiment à voir, on va dire, ne serait-ce que pour les images, finalement.
Bon, il paraît quand même, de ce que j'ai lu hein, dans les critiques, que c'est...
Les critiques ont aimé.
Oui, voilà, que c'est une belle fable.
J'ai trouvé ça très
plutôt comique. Et que c'est pas si évident, finalement, de faire des films au Maroc sans déplaire au pouvoir. Mm. Voilà. Ce qu'il a réussi. Le miracle du Saint Inconnu. Aucune transition avec le film suivant, Nina Wu de Midi Z, un film qui traite un peu de MeToo, un film dérangeant, nébuleux, présenté hors compétition à Cannes.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Alors, qu'est-il arrivé à Nina Wu ? Alors, dès les premiers plans, hein, le ton glaçant est donné. Une jeune femme, le visage fermé, se déplace au milieu de la foule dans les rues de Taipei. Alors, le désarroi est inscrit sur ce masque signifiant. Hein, en quelques plans très incarnés, le film capte l'ultra-moderne solitude de cette femme. Cette ouverture, hein, du propre aveu de la scénariste et interprète principale, Wu Kexi, serait l'épilogue, même si elle nuance son propos lorsqu'elle énonce dans le dossier de presse que cette scène pourrait tout autant s'inscrire dans le présent que dans le futur. Une nuance largement validée par un cinéaste qui s'est emparé de cette histoire dans l'air du temps, inspirée de l'affaire Weinstein, en brouillant les pistes, en tordant la narration jusqu'à saturation, embarquant le spectateur dans l'espace mental de l'héroïne avec une virtuosité qui ne tourne jamais à vide. Cette jeune femme, donc, c'est Nina Wu. Elle s'est exilée en métropole, loin de sa famille et ses origines rurales, dans l'espoir de devenir actrice. Elle n'a pour le moment tourné qu'une poignée de publicités, quelques courts-métrages et complète aussi ses revenus avec un programme érotique en live stream. Alors, son agent lui offre une opportunité qui pourrait bien changer le cours de son existence, la proposition d'un rôle conséquent dans un film d'espionnage. Après audition, volontairement éludée au début du film, elle est engagée. Alors, seul bémol, hein, elle doit tourner des scènes de sexe explicites. Le visage de porcelaine de l'actrice va peu à peu s'effriter tout au long du tournage, anxiogène, placé sous la domination masculine, rappelant à plusieurs égards la première partie de l'impressionnant audition. D'autant qu'à l'instar du film de Takashi Miike, je fais des ponts entre les...
Oui, t'as raison. Hein.
Je fais des ponts. Pour une fois, je parle pas de
tu
Palma.
Tu fais des ponts. En fait.
Après une première partie rigoureuse étayée de lent travelling avant et arrière d'une composition très géométrique des cadrages, le film chavire littéralement, nous plonge dans un univers onirique où se télescope le passé, le présent et le futur, ainsi que le rêve et la réalité au point de perturber nos repères. Alors cette césure, hein, marquée par un événement majeur, invite le spectateur à être attentif aux images, à décrypter les signes et les codes évoquant, alors toute proportion gardée, le fameux Silencio de Mulholland Drive. Plus rien ne sera comme avant, et peut-être alors que le début ne commence pas par la fin, contrairement à ce que dit l'actrice et scénariste. À l'austérité donc formelle de la première partie, créant un malaise croissant, s'oppose une mise en scène frénétique multipliant les effets visuels. Les couleurs sont plus agressives, avec une prédilection pour le rouge. Les décadrages et les ellipses narratives déstabilisent la perception du regard, nous embarquant dans un cauchemar intérieur, espace mental d'une actrice qui laisse des traumatismes et fêlures ressurgir. Alors pris dans une spirale de psychose où l'on ne sait plus très bien où se trouve la part du réel, sa mauvaise conscience revient, celle d'avoir quitté ses parents, de ne pas assumer ouvertement son homosexualité dans un pays ultra conservateur et d'avoir accepté d'endosser un rôle sulfureux. Alors cette construction en miroir entre la première partie rationnelle et la seconde baroque se révèle une façon intelligente de livrer une confession à l'écran et d'épargner le spectateur grâce à des choix esthétiques et narratifs très forts, évitant notamment le naturalisme. On refait le chemin avec Nina, sans pathos et voyeurisme, mettant une distance morale. Manipulée par son agent et bousculée par un réalisateur despotique, Nina Wu va se donner corps et âme pour défendre son personnage fictif au point de perdre la raison, jusqu'à cette fameuse séquence de sexe intelligemment suggérée à l'écran par une simulation provoquant un vrai malaise. Et paradoxalement, en laissant une part d'imagination, elle n'en est que plus dérangeante, imposant une vision érotique purement liée au fantasme masculin. Alors le discours féministe est présent, d'autant que l'actrice scénariste est inspirée de l'histoire vécue d'une de ses amies comédiennes. Nina Wu dépasse cependant le plaidoyer post-MeToo pour dépeindre un système patriarcal et vertical basé sur la loi du plus fort et la compétitivité. Dans cette représentation effrayante de l'envers du décor d'une industrie peu reluisante, les femmes sont les premières victimes, représentation symbolisée par une double séquence terrifiante avec le producteur du film qui invite Nina dans sa suite, La Chambre 1408. Alors, référence explicite à un film d'horreur inspiré d'une nouvelle de Stephen King et, vous pouvez l'imaginer, produit par Harvey Weinstein. Alors, Midi Z s'affirme comme un auteur exigeant, alliant la forme et le fond, sans jamais que l'une prenne le dessus sur l'autre. C'est un peu dans cet équilibre fragile que tient toute la force de Nina Wu, admirablement mis en scène. Le premier grand film de ce début d'année, une œuvre déstabilisante à la colère rentrée et pudique. Mmh.
Je suis parfaitement d'accord avec ta vision, et il y a quelques images qui me restent finalement.
C'est très beau visuellement.
Oui,
plus, hein.
Et notamment la scène où le producteur élimine petit à petit, fait passer un casting.
Casting dont on se demande s'il est réel ou rêvé.
Oui.
Il y a un peu les
on
deux.
Ne sait pas. Très troublant, ce film donc de Midi Z, Nina Wu. On va passer, là encore, c'est Cannes, hein, c'est Les Siffleurs de Corneliu Porombuiu, un polar inventif qui nous emmène avec des ripoux et des mafieux entre la Roumanie et les Canaries.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, ça, une blague ou quoi ?
C'est un des derniers films, sinon le dernier film, qui était en compétition à Cannes en 2019 à sortir sur les écrans, et ça ne sera peut-être pas un des plus faciles à défendre pour le distributeur, et pourtant il est remarquable. Il s'agit des Siffleurs de Corneliu Porumbuiu, réalisateur roumain qui l'on doit 12h08 à l'est de Bucarest, ou plus récemment, Le Trésor. Ce film, Les Siffleurs, a longtemps été présenté sous un autre titre, La Gomera. Ce titre est tiré du nom d'une île, une des plus petites de l'archipel espagnol des Canaries. Là-bas, on y parle une langue sifflée pour communiquer de montagne en montagne. Alors, ce n'est pas un cas unique, car grâce au film Cybèle, sorti l'hiver dernier, on a appris qu'un langage sifflé était aussi utilisé dans une vallée de Turquie aux abords de la mer Noire. Alors, on notera quand même l'intrigante proximité des deux films, sauf qu'ils n'ont rien à voir. Cybèle prend pour héroïne une figure féministe, tandis que Les Siffleurs est un film noir où des truands et un policier se retrouvent liés pour faire évader un certain Zolt. Ce flic roumain qui ne croit plus en grand-chose a l'habitude de travailler avec la mafia, et pour l'amour d'une femme fatale, évidemment, il va vouloir doubler et ses collègues flics et ses commanditaires. Mais ce ne sera pas simple. Au détour d'un séjour qu'il aurait pu croire tranquille sur l'île de la Gomera, des mafieux espagnols vont l'obliger à apprendre le langage sifflé des anciens habitants de l'île. Alors c'est le seul moyen pour berner les policiers qui, faute de décoder ce langage, croiront que des oiseaux chantonne. Ainsi, le langage, qui a déjà été une source de réflexion pour un précédent film, eh bien, permet ici autant de se comprendre que de berner. Ce n'est pas étonnant que le réalisateur roumain s'empare d'un tel sujet. Son cinéma est travaillé par les rapports entre le langage et la réalité, un élément auquel les personnages sont confrontés. Alors, pour nous balader de cette île espagnole jusqu'en Roumanie et même Singapour, hein, le réalisateur roumain use autant des codes du film noir, du film policier, que de la comédie et du western. L'accent comique, eh bien, on le trouve dans un humour plutôt noir, il faut bien le reconnaître. Mais c'est toute la singularité de Corneliu Porumbiu qui se distingue ici de ses homologues roumains un peu trop occupés à sonder leur société corrompue ou le malaise social. Alors, pour mener son récit, le réalisateur se joue des apparences de ses personnages qui proposent de multiples facettes. Il change de lieu, livre de savoureux dialogues. Il y a un autre élément important aussi pour le réalisateur roumain, c'est la présence de la musique. Alors, j'avoue que moi, ça m'a complètement échappé, mais pourtant, la musique lui a permis de resserrer son film et d'en livrer un nouveau rythme. C'est ce qu'il a raconté quand il était à Cannes en conférence de presse. Et tiens donc, on va l'écouter.
Inspecteur Christian Galaké.
Son tourmarite. Io mangio un drattame.
C'est le langage, la langue qui m'a attiré. Et je me suis demandé ce que pourrait devenir ce personnage qui est celui du policier, comment il pourrait évoluer en 10 ans. C'est à partir de là que j'ai commencé à écrire.
Everything we speak can be whistled.
Which is?
Mama.
If the police hear the language, they will think the birds are singing.
J'avais vu un documentaire à la télévision il y a environ 10 ans. J'étais ici d'ailleurs à l'époque à un certain regard. Je passais mes vacances en France et j'ai vu ce documentaire à la télé. Je me suis intéressé donc à cette langue. Ça m'a en fait fasciné. J'ai commencé à écrire un scénario qui n'était pas très bon, donc je l'ai laissé tomber. J'ai travaillé sur d'autres films. Et après ma dernière fiction, je suis revenu à cette thématique.
Le plan est simple. We need to kidnap him.
Je n'aime pas beaucoup tourner des scènes violentes. Mais dans ce projet-ci, j'ai mis l'accent sur cette tuerie lorsque quelqu'un coupe la gorge de quelqu'un d'autre. Ça dépend où l'on met l'accent pendant le tournage de cette scène.
Donc
pour cette scène qui se déroule le soir, j'ai préféré une approche plus classique.
The bullet into the,
parce qu'on entend le fusil qui tire et on ne voit pas les balles. C'est une question, c'est un choix esthétique.
Ma scusa, scusa, non è patacio.
Non esagero. Onde sono cele 30 de milioane?
Jusqu'à présent, je fais des films avec beaucoup de dialogues et des scènes longues. J'aime écrire des dialogues.
I still had this type of scenes in the film.
Et j'avais encore quelques scènes comme cela dans ce film, mais au montage, j'ai décidé de donner au film un certain rythme, de jouer avec ce rythme, de donner davantage d'importance à la musique, de mettre davantage de chansons, afin que dans ce film, on trouve ce type de rythme.
Mañana a las 9.
Quand on tournait le soir avec Vlad et Christy, on mettait de la musique en même temps, et aussi dans le motel. Comme cela, les personnages se mettaient dans l'humeur, se mettaient dans l'atmosphère grâce à la musique. Dans les scènes où Christy rentre chez elle pour cacher l'argent, il était important d'avoir ce type de mouvement tel qu'on le voit dans le jardin et que ça corresponde au rythme de la musique. Donc on a mis la musique sur le plateau.
Gomera
était un titre que nous avions choisi parce que j'avais travaillé avec Juliette et il y avait une confusion entre Gomera et le film Gomorra. La Gomera, Gomera, Gomorra, ça prêtait à confusion. Alors Les Siffleurs comme titre, ça rappelle aussi d'autres titres. C'est une bonne solution à l'international.
Yeah.
Corneliu Porumbuiu, donc le réalisateur roumain des Siffleurs en salle depuis le 8 janvier, tout comme le film L'Adieu de Farewell, chronique familiale autour d'une grand-mère que personne ne souhaite voir mourir.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
The Farewell, l'adieu, en français, sort en salle cette semaine, tout juste auréolé de 2 Golden Globes, meilleur film en langue étrangère et meilleure actrice dans une comédie, pour Awkwafina, qui joue ici le rôle de Billy. Billy est une jeune femme d'origine chinoise qui a été élevée aux États-Unis et qui vit toujours, ainsi qu'une partie de sa famille, immigrée là-bas. Elle découvre un jour que sa grand-mère, dont elle est très proche malgré la distance, est atteinte d'un cancer incurable et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Or, elle découvre aussi que dans la société chinoise, eh bien, il est tout à fait courant dans ces cas-là de cacher la nouvelle à la personne malade afin qu'elle ne termine pas sa vie dans la peur. La famille de Awkwafina décide d'organiser en Chine le mariage de son frère à la hâte et de s'en servir comme prétexte pour revoir une dernière fois tous ensemble l'ancêtre de la famille. Alors si The Farewell avait été un film français, il aurait été sans doute écrit comme une comédie du retour aux sources. Vous savez, ces comédies où les protagonistes reviennent dans leur pays d'origine avec tout ce que cela comporte de quiproquos et de blagues douteuses sur les différences culturelles. Heureusement, The Farewell évite tous ces clichés. Lorsque Billy arrive en Chine et que l'on découvre ce pays à travers ses yeux, ce n'est pas pour rire des différences entre la culture chinoise et la culture américaine. Au contraire, le film propose une réflexion assez douce sur les valeurs de la société chinoise, une société dans laquelle on cache ses émotions coûte que coûte et dans laquelle on fait tout pour garder la face. Lulu Wang, la réalisatrice, qui est elle-même américaine, d'origine chinoise, incarne une partie de la jeune génération du cinéma américain plus Sundance que Hollywood, une génération de cinéastes issus de l'immigration à la culture métissée et qui insufflent cette double culture dans leurs œuvres. Et The Farewell est par ailleurs très autobiographique. The Farewell, c'est un film construit autour d'une supercherie généreuse, on pourrait dire, un peu comme dans Goodbye Lenin, comme dans La vie est belle, des films dans lesquels on ment pour la bonne cause, malgré l'énormité de la situation. Et malheureusement, pour les spectateurs auxquels on a promis une comédie, eh bien ici, le film ne s'amuse pas véritablement de ce quiproquo, qui est pourtant son socle narratif. Alors The Farewell, ce n'est pas le meilleur film de l'année, hein, comme les distributeurs essaient de nous le faire croire. C'est un film réussi, certes, mais dans lequel il manque juste assez de rire pour être une comédie et juste assez d'émotion pour être un vrai drame. Mmh. On reste un peu entre les deux.
Il y a beaucoup de douceur, en tout cas.
C'est très doux. C'est, ouais, très doux.
C'est vrai que ce n'est pas très drôle, finalement.
Non, alors qu'on le vend comme ça.
Ça arrache quelques sourires.
Je pense que c'est une erreur, vraiment, de le vendre comme ça. Parce, mmh, et le fait que l'actrice principale était couronnée meilleure actrice dans une comédie, c'est une erreur. Enfin, surtout qu'elle passe tout le film à pleurer.
Oui. Non, je suis très étonné d'ailleurs qu'elle ait un prix d'interprétation parce que bon, j'ai été très attentif, mais je n'ai pas vu un jeu remarquable.
Elle pleure hyper bien quand même.
Oui, peut-être. Oui. Voilà, The Farewell, donc l'adieu, c'est en salle depuis le 8 janvier. Maintenant, allez, on termine avec les films du début d'année, avec le film de Takashi Miike entre comédie burlesque, film de kung-fu et thriller.
C'est un état d'esprit.
Cinérama.
What else?
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Alors, petite résurrection rafraîchissante pour le prolixe Takashi Miike, absent des écrans français depuis la sortie en 2011 du pourtant excellent Harakiri, remake du classique de Kobayashi. Alors, ce stakhanovice de la pellicule revient avec First Love, polar ludique et déviant, violent et romantique, sur fond de guerre des gangs dans un Tokyo cosmopolite où se croisent des bandits issus de tous les pays asiatiques voisins. Alors, il retourne surtout à ses premiers amours, après des années d'errance, hein, le thriller urbain déjanté qui installa sa réputation à l'orée des années 90. Car en 3 décennies, Miike a réalisé, tenez-vous bien, 100 de longs métrages, alors de qualité variable, mais traversés de quelques éclairs de génie. Et je confesse, à une époque, je voulais regarder tous les Takashi Miike, et je n'en ai vu qu'une 30aine, et j'ai fini par craquer. Hein. Alors, découvert en France début 2000, hein, avec le traumatisant Audition et sa trilogie furieuse Dead or Alive, il a abordé tous les genres populaires sans distinction. Hein. Films de monstres, J-horror, thriller horrifique, classique du Shambhara revisité, films de super-héros, et même le western avec Sukiyaki, qui western Django offrant à Tarantino, tenez-vous bien, un rôle avant que celui-ci ne réalise sa propre version du chef-d'œuvre de Corbucci. Produit par le très respectable Jérémy Thomas, le dernier empereur entre autres et le festin nu, hein, First Love confirme la bonne santé d'un artisan doué et malin nous vengeant de bien des films d'auteur empesés. Il marque en apparence l'assagissement, hein, d'un cinéaste qui prétend ne pas vouloir être subversif à tout prix, avec ce qui ressemble au début à une version nippone de l'excellent True Romance de Tony Scott, soit la fuite de deux amants poursuivis par une horde de tueurs sanguinaires. Le héros est un jeune boxeur atteint d'une tumeur au cerveau. Ses jours étant comptés, il n'a plus rien à perdre. Il va donc protéger une prostituée, trimballant un sac rempli de drogue convoité aussi bien par des yakuza, des gangsters chinois, des flics ripoux. Le point de départ est noyé par une multitude de personnages, tous plus délirants les uns que les autres. La structure brouillonne du scénario se clarifie rapidement. Et une fois les enjeux posés, le spectateur est embarqué dans un furieux spectacle à la voyance gratuite assumée et à l'humour bon enfant fonctionnant à merveille. Alors, loin de ressembler à un énième film cynique pratiquant à outrance le second degré, First Love emporte le morceau grâce à la caractérisation des personnages, à commencer par les deux amants, silhouettes très émouvantes, filmées par un mythe toujours aussi anticonformiste et un art, mais aussi romantique et très candide dans sa relecture des codes du polar. Alors que la normalisation pouvait guetter le film, Make se lâche dans une seconde partie en roue libre, totalement punk, laissant éclater la fibre la plus libertaire d'un cinéaste passionné par tous ces oiseaux de nuit pour qui vivre à 100 à l'heure est un impératif. Son polar nocturne ressemble autant à un film d'horreur qu'à une comédie, dessinant en cru une société japonaise en déclin, rattrapée par la mondialisation via des figures meurtrières venant des quatre coins du globe. Takashi Miike se moque du bon goût, multiplie les effets grossiers, le gore qui tâche, les mouvements de caméra furieux et les décadrages constants, s'offrant même une petite incursion dans l'univers du manga. Alors porté par une partition free rock impeccable et une galerie de comédiens impeccable aussi, First Love, sans être un chef-d'œuvre, se déguste comme un plat exotique et épicé en sirotant un alcool qui déchire la gorge. Et surtout, à mon sens, c'est une bonne entrée pour les gens qui ne connaissent pas du tout le cinéaste.
Je suis d'accord.
Voilà, il a fait mieux, mais il a fait beaucoup moins bien aussi.
Et puis après, on pourra se faire les 100 précédents. Voilà, c'est ça. Allez, on avait inauguré ça en 2019, des chroniques sur les livres. Eh bien, tu vas poursuivre cela, Marine.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va garder ça.
Oui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Ma folle histoire du cinéma ». Alors, c'est un livre écrit par Kevin Ellarby. Kevin Ellarby, c'est un comédien connu du grand public, notamment pour son rôle dans la série télé Clem. Et c'est aussi un cinéphile affirmé qui parle notamment de cinéma dans des podcasts. Et c'est quelqu'un qui est suivi par un public de jeunes cinéphiles pour lesquels, de toute évidence, il a écrit ce livre. Alors, dans « Ma folle histoire du cinéma », on n'est pas dans l'analyse filmique, on n'est pas d'ailleurs vraiment dans la notion d'art. L'auteur part du principe que derrière les œuvres, derrière les films, il y a des hommes, au sens humain du terme. Et donc, il nous raconte les films cultes, les monstres sacrés qui ont fait le cinéma à travers une série d'anecdotes. Alors, ça se lit très facilement. Le ton est accessible, l'auteur lit entre eux les différents chapitres du livre qui sont très courts, ce qui rapproche le livre dans sa forme du roman plutôt que de l'ouvrage théorique. Après, ce qui peut surprendre un petit peu, c'est le manque d'homogénéité. C'est-à-dire qu'on va parler de la genèse de Autant en emporte le vent, ensuite de la vie de James Dean, puis on va passer à l'arrivée de Tim Burton chez Disney ou parler de la version que Baz Luhrmann a fait de Roméo plus Juliette. Pourquoi pas ? Après, je le précise, c'est quand même un livre qui est très référencé. Donc, ce n'est pas à destination de lecteurs qui seraient totalement étrangers à l'univers du 7e art. Bon, en même temps, j'imagine que si vous nous écoutez, c'est que le cinéma ne vous dégoûte pas totalement. C'est un livre qui est très agréable à lire. C'est vrai, c'est écrit de façon très fluide. On a envie de le lire d'une traite. Après, j'ai juste une petite réserve sur les dernières pages dans lesquelles sont cités pas mal de personnalités qui réagissent sur certains films et qui n'ont parfois pas grand-chose d'intéressant à dire. Voilà. Heureusement, ça n'enlève rien à la qualité de ce que raconte l'auteur au cours des 300 pages précédentes.
Et du coup, il les prend où ces anecdotes finalement ? Qu'est-ce qui fait que ce soit des anecdotes
Alors parfois, ça vient des gens eux-mêmes, genre Tim Burton, Guy Ritchie. Parfois, j'imagine qu'il les a appris dans des livres, tout simplement, comme Autant en emporte le vent. Je ne pense pas qu'on lui ait raconté de vive voix, à mon avis.
Non, mais c'est intéressant de savoir quelles sont ses sources, si les cite, c'était plutôt
ça
la question. Oui.
C'est vrai.
Il y a des sites de cinéma.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est la collecte. Non.
Il a pris dans d'autres podcasts, peut-être, tout simplement.
Pour le coup, Wikipédia, aussi.
Finalement, ce qui est peut-être intéressant, c'est pourquoi il choisit ses films. C'est au travers des anecdotes, on comprend pourquoi lui choisit de mettre en avant.
Il parle toujours des humains qui sont derrière ces films, de comment se sont montés les films, comment ont été choisis tels acteurs et pas d'autres acteurs. C'est vraiment l'humain qui est privilégié, qui est mis en avant pour parler de la production cinématographique classique. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'âge d'or hollywoodien, etc. Dans le livre.
Y a-t-il osé parler de Harvey Weinstein ?
Je crois pas qu'il en parle.
Non,
après, il me semble qu'il y a des références finalement. Quand même, si c'est dans le livre.
peut-être.
Vous avez fini?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Non, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule!
La semaine prochaine, il sera encore question de l'actualité des sorties avec le film de Sam Mendes, 1917.
Et moi, je vous parlerai d'un film asiatique, Trois aventures de Brooke.
Moi, ça sera Une belle équipe, un film sur le foot féminin.